Investir Malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefèvre, cofondateur du site construiresaretraite.com.
Bonjour à toutes et à tous, Investisseurs Malins. Voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Et pendant les beaux jours, car ce sont les beaux jours, les idées d'investissement immobilier viennent souvent très vite. Un appartement neuf, un investissement locatif, à moins que ce ne soit un studio ancien, rénové ou peut-être meublé ou autre chose. Bref, vous l'avez compris, les idées ne manquent pas. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence, Gaëtan.
Et oui, et pour garantir un taux d'occupation avec un bon rendement, il faut se démarquer positivement. Mais comment y parvenir avec un taux de réussite élevé ? Eh bien, cela tombe très bien, car ce mois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir Michaël Judaïc, architecte intérieur et investisseur immobilier, qui va nous révéler toute la puissance de la décoration pour sublimer son investissement immobilier, sans pour autant y mettre tout son cash flow.
Oui, alors Michaël Judaïc, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir d'accueillir un investisseur, mais également un peu un artiste hein, pour nous, vu de loin. Alors pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur vous ?
Alors déjà,
votre merci. Vie, votre œuvre.
Merci beaucoup, merci Alexandre, merci Gaëtan de l'invitation. C'est un vrai plaisir de pouvoir partager avec vous un peu mon raisonnement, qu'on peut dire un peu deux mots sur moi. Donc effectivement architecte d'intérieur, investisseur et j'ai une vraie passion pour le détail. Ça a toujours été, avant je n'étais pas forcément architecte d'intérieur, mais j'ai toujours travaillé un peu dans la minutie. J'aime essentiellement accompagner les investisseurs parce qu'il y a eu un grand mouvement d'investissement et je récupérais souvent des personnes après investissement qui se retrouvaient bloquées dans leur projet parce qu'ils n'avaient pas su anticiper certaines phases clés.
Le diable se cache dans les détails en fait.
Dans les détails et comme la perfection aussi et la magie aussi de toute chose. Mm-hmm. Donc faut savoir un peu les interpréter et les anticiper. Et j'évolue sur les réseaux sociaux pour pouvoir accompagner et aider un maximum de personnes à valoriser leurs biens, non pas de façon esthétique, mais aussi identitaire. C'est bien aussi de pouvoir se démarquer, rien ne vaut une forte personnalité, ce que j'appelle le branding immobilier.
Et on a peut-être une clé, effectivement, dans la réussite du projet.
Alors, votre credo, Michaël Judaïc, c'est de savoir bien investir, c'est savoir bien rénover et déclencher une sorte, finalement, d'effet waouh grâce à la décoration. Mais finalement, qu'est-ce qu'une bonne décoration qui peut avoir, justement, ce pouvoir, cet effet waouh ?
C'est une bonne question. C'est vrai qu'on parle souvent d'une bonne décoration ou un effet waouh. Une bonne décoration, il faudrait savoir ce que c'est. Pour moi, c'est un ensemble. C'est un ensemble de petits détails. Si on peut essayer de l'apparenter à un cocktail, dans un cocktail, plus le temps passe et plus on improvise certaines choses. Et de ce qu'on retiendrait, en tout cas de ce que je retiendrais, ce qu'il faudrait retenir, c'est tout est affaire de proportion. Une décoration, belle ou pas belle, elle est arbitrée par d'où on vient, nos influences, comment on perçoit les choses de par rapport à qui on est aussi. Et pour moi, ça se joue essentiellement sur une affaire de proportion. Donc essayer de lire un peu les éléments qu'on va pouvoir structurer pour pouvoir avoir une lecture homogène de ce qu'on souhaite faire sans forcément partir dans des improvisations qui seront de façon que sont perçus consciemment ou inconsciemment par les utilisateurs comme quelque chose un peu hasardeux. Donc essayer de garder quelque chose de structuré et cohérent.
Et alors cohérent par rapport à sa propre histoire, je veux dire par là l'histoire de l'investisseur, ou alors vous partez du besoin que vous pouvez comprendre des clients potentiels qui peuvent être adressés dans la zone dans laquelle vous investissez ?
Ouais, c'est une bonne question aussi. C'est vrai que ça peut être assez flou de pouvoir interpréter ça comme ça. Je dirais qu'il faudrait, dans le cadre de l'investissement, alors j'ai une approche assez émotionnelle du traitement de l'espace. J'aime bien faire en sorte que les biens résonnent avec les sens. Pour moi, un bien est simplement un booster émotionnel, qu'il soit dans le sens positif ou négatif. On l'a aussi vu avec le Covid il y a quelques années. Ceux qui étaient bien chez eux se sont sentis bien et l'ont bien vécu. Et d'autres, ça a été carrément l'hécatombe. Je dirais qu'il faut comprendre ce qu'on veut faire de ce produit. Ayant travaillé par le passé sur des hôtels de grands groupes, j'aime bien parler d'une identité. À partir du moment où on sait ce qu'on veut faire avec ce produit d'investissement, je parle pas de l'investissement un peu one shot, on se dit on va le faire pour le faire, je parle plus de l'investissement quitte à traverser un peu le temps. Donc à partir du moment où on a un peu cette structure mentale de se dire qu'on veut inscrire un bien à travers les mémoires, l'espace et le temps, la structure et l'envie de faire tout ça est complètement différente. Là, on va pouvoir mieux s'approprier ce qu'on souhaite faire du bien et on rentrera plus dans un principe de parti pris. À même titre que vous, Alexandre, vous avez votre identité et vous, Alexandre, vous avez la vôtre. L'idée n'est pas de surveiller sur l'identité de l'un ou de l'autre ou rentrer dans une masse qu'on appellera communément la tendance et se noyer dans cette masse. Soyons notre propre concept, analyser les choses et toujours avec une certaine cohérence.
D'accord. Alors, passons au concret. Votre site Instagram regorge d'exemples montrant des idées très originales pour optimiser cet intérieur de manière astucieuse, mais aussi quand même un peu classe, pour dire un peu schématiquement les choses. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples qui vous ont...
Alors, ce qui peut être intéressant, alors si on essaie de raisonner à travers les sens, si on voit que chaque sens, est un capteur qu'il faut stimuler quelque part. Il va falloir mettre accent sur ces sens-là. Très facilement, on a la vue. Il faut faire quelque chose donc de beau, d'homogène. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais il faut pas oublier que y a aussi les senteurs. Ça paraît accessoire, mais quand vous rentrez dans des magasins, il y a des signatures olfactives. Dans n'importe quel magasin, qui aujourd'hui sont beaucoup plus décelables, mais avant ils étaient beaucoup plus subtils parce que les gens n'en avaient pas conscience. Pourtant, elles étaient là. Quand on arrivait dans un magasin ou un autre lieu, on voulait essayer de reproduire ces sensations-là. Et typiquement, y a aussi le toucher, jouer avec les matières. Alors, j'aime bien dire ne pas avoir peur de jouer avec les matières, mais toujours avec une certaine proportion. C'est vrai que j'ai mon propre style. Je vais pas aller dans la surenchère de matériaux ou de traitements, mais j'aime bien dire que quand je conçois un bien et que la personne reste un peu bouche bée, j'aime bien dire que ses sens ont tellement été stimulés qu'elle ne sait pas quoi dire. Et quand elle rentre et qu'elle touche, eh ben c'est déjà gagné pour moi.
Alors, vous parlez décoration, mais aussi finalement optimisation des espaces, de l'agencement, des lumières, etc. On l'a vu avec aussi l'aspect olfactif. C'est un peu une science tout cela, c'est un métier, non? Alors qu'est-ce qui vous a amené vers ça?
Alors qu'est-ce qui m'a amené vers ça? C'est vrai que pour moi, comme je disais, un bien est un booster émotionnel. J'ai vu beaucoup de personnes mal vivre certaines choses. Et mon but à chaque fois ultime est de faire en sorte que les personnes se sentent si bien chez elles que tout ce qui va se passer ne pourra être qu'amplifié. Je voulais être un peu la personne qui pourrait aider ces gens-là à décoder ces espaces, en tout cas à leur niveau, sans forcément rentrer dans des schémas d'études et autres qui sont un peu poussés. Mais quand on regarde un peu toutes ces petites choses-là, on se dit que en fait l'effet waouh. C'est comme une affaire de séduction, si on peut dire ça. Au lieu d'essayer de chercher le frontal, essayer de regarder un peu indirectement les choses qui vont permettre de pouvoir stimuler les personnes. J'aime bien dire, quand on part en vacances, il y a tout un schéma qui se passe à tel point que lorsque l'on part ou la fin des vacances arrive, j'aime bien dire qu'on se retourne, comme si une part de nous était restée là. Et créer ce manque en arrivant peut-être chez soi ou sur le travail, on a cette carence qu'on a envie de combler. Et c'est cette carence émotionnelle que je vais essayer de créer pour susciter aux futurs utilisateurs de toujours venir encore et encore et encore. Moi, j'aime bien dire que je cherche pas je cherche réellement le coup de foudre. À partir du moment qu'on a le coup de foudre, on peut mettre des choses assez magnifiques en place.
De l'émotion, mais malheureusement, Michael Judaïc, sur Investir Malin, ce sont les chiffres qui nous intéressent aussi par rapport à nos auditeurs. Concrètement, un appartement qui était dans un état moyen à rafraîchir, comme on dit, nécessitera combien d'euros au mètre carré de travaux et décorations et quel est, selon vous, ce surplus de rendement apporté par une belle décoration? Alors, évidemment, par rapport à la première partie de votre intervention, on comprend que vous basez tout sur l'émotion et c'est votre inducteur, mais par rapport au potentiel investisseur qui veut se lancer dans l'aventure, lui, concrètement, il a un plan de financement, un business plan à construire, et il lui faut des chiffres. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre?
Alors, je vais essayer de répondre en deux fois. C'est vrai que les chiffres, c'est ce qui permet de pouvoir mieux se projeter. Alors, faut comprendre aussi, c'est que les chiffres sont assez aléatoires aussi dans la rénovation. On peut très bien partir de l'existant et se dire qu'on va pouvoir jouer d'une contrainte et se la réapproprier pour faire un moyen d'expression.
Un exemple.
Là où une personne verrait peut-être un poteau, essayer de recomposer avec son poteau, ce poteau-là pour en faire un noyau peut-être de circulation et accoler peut-être un agencement qui trônera en travers les pièces et sous certaines ouvertures qui seraient maîtrisées. Donc vraiment on tourne autour de ce noyau qu'on retrouve parfois aussi souvent dans les bâtiments. Type ascenseur, hall, on tourne autour de ce noyau-là. Ne plus voir les choses un peu comme une contrainte, mais comme un moyen d'expression. Et pour pouvoir essayer de donner des coups là-dessus, c'est vrai qu'on l'a vu aussi, il y a beaucoup de matériaux qui ont pas mal augmenté. Donc en fait, cette affaire de coups est assez aléatoire, surtout que ça dépend, de l'entreprise. De son savoir-faire, sa localisation et autres. On peut partir peut-être sur des notions entre 300 et 800 euros du mètre carré pour des rénovations, on va dire...
Légères
ou moindres. Mais tout ça je le donne aussi dans mes réseaux. On a possibilité de contourner un peu ces choses-là et de se réapproprier ce qui est vu comme standard et le mettre en scène pour le faire apparaître comme sur mesure et aux yeux des personnes faire en sorte qu'ils apparaissent dans l'espace comme une évidence. Mmh. Et là, on arrive à des traitements super, super soignés.
Alors, vous en avez parlé, qui dit travaux dit artisans, qui peuvent effectivement donner des devis pas nécessairement simples, dont les solutions parfois peuvent être complètement différentes, et qui vont aussi ne pas respecter les délais. Ça arrive assez souvent. Alors, avez-vous des trucs à nous donner pour trouver un bon maître d'œuvre et des artisans et faire en sorte que, on va dire, le devis soit optimisé?
Je vais essayer de donner des grandes lignes. Les artisans, il y en a énormément. Ça, tout le monde le sait. Faut pas avoir peur d'essayer d'en consulter plusieurs. Typiquement, pour un projet, il est possible que j'en consulte 8. Parce que même sur 8, il est possible qu'il n'y en ait que 3 qui répondent. Travaillant un peu sur toute la France, j'ai une méthode de consultation qui me permet de consulter simultanément plusieurs entreprises en les pré-triant sur le volet. Les choses qu'on peut retenir pour une entreprise qui va un peu répondre facilement, oui, ça on peut le faire, vous inquiétez pas. On peut commencer, on verra ça après, attention. Parce que souvent, ce qui peut arriver, c'est que une fois qu'on a le pied dans l'étrier, on est parti et on est pris comme en guet-apens. Bah oui, on a déjà signé, l'entreprise est déjà engagée, l'entreprise est déjà sur place. Il est plus facile d'immiscer des TS, des travaux supplémentaires. Et c'est ça qui effondre une rentabilité et qui parfois même effondre tout un schéma économique pour une personne qui aura mis toutes ces économies-là. Pour pouvoir trouver ces entreprises-là, on peut très bien aller sur des sites comme LinkedIn, rentrer sur des schémas de consultation, préparer un cahier des charges structuré qui permettra de pouvoir mieux décoder le devis. Après, en fonction de là où on est dans le projet, on parlera d'estimatif au début. Et après, plus le projet avancera, et puis on sera sur une affaire de devis beaucoup plus ciblée, beaucoup plus détaillée, qui permettra d'asseoir un peu plus le montant des travaux. Bien sûr, on a toujours des notions de timing. Qu'on n'a pas forcément de date de fin, on peut mettre une affaire de temps, 3 mois, 4 mois, 5 mois de travaux, gérer tout ça par des comptes rendus. J'insiste toujours sur le principe de compte rendu, je fais même toujours des contrats, ça permet aussi d'encadrer les choses, pas que pour soi, mais vis-à-vis aussi de l'entreprise et garder des traces. Typiquement, ce qui peut arriver, c'est qu'une entreprise peut se dire au début de chantier, vous en faites pas, ça je le prends pour moi, il y a pas de souci, pas de problème, le chantier continue, il peut avoir naturellement certaines frictions et d'un seul coup, ce qui était acquis devient payant. Et là, c'est très facile de pouvoir ressortir en contrat et dire, écoutez, monsieur, on en avait convenu ça. Et à même titre que le client peut dire qu'il avait convenu ça, que l'entreprise peut dire, écoutez, on avait convenu autre chose en amont. Et là, ça permet aussi de pouvoir couvrir tout le monde. Et en cas de litige, avoir des traces écrites de toute la chronologie du chantier.
Autre bon conseil, les paroles s'envolent, les écrits restent. supposons que des auditeurs veuillent se lancer dans cette démarche. Ils vous contactent et comment vous les accompagnez exactement ? Est-ce que, par exemple, vous pouvez, on a compris que vous pourriez évidemment contribuer à l'agencement et à la proposition, mais est-ce que vous pourriez aller même jusqu'à l'accompagnement et la maîtrise d'œuvre de ces fameux artisans qui peuvent, savoir gérer?
Oui, tout à fait. C'est des choses qui sont assez régulièrement demandées parce que c'est un des points de crainte pour la plupart des personnes, qui sont investisseurs ou pas. Un sou reste un sou, un investissement reste un risque. Et savoir déceler les risques est primordial dans un projet. Je peux les accompagner soit par des principes de consultation, déjà en premier temps, pour essayer de décoder le potentiel espace qu'ils auraient vu, essayer de voir un peu les points clés. On peut très bien aussi faire appel à moi pour la réalisation donc des plans, donc ce que j'appellerais une mission partielle, et après une mission complète, suivi de chantier. À côté de ça, j'ai aussi une formation rénovation haute définition qui permet aux personnes qui veulent prendre en main tout ce projet-là comme un investisseur, savoir un peu comment gérer des consultations multiples, surtout quand on n'est pas à côté, gérer des entreprises et autres, parce que l'idée, c'est pas faire forcément un seul chantier, mais savoir en gérer plusieurs pour scaler au plus possible. Dans cette formation, en tout cas dans cet accompagnement, je donne tous les codes qui permettent de pouvoir faire ça. J'ai également un groupe privé qui s'appelle Exclusive, sur lequel on est plus proche pour pouvoir donner des astuces de façon communautaire, mais aussi j'interviens sur les projets, et bien sûr une banque de plans où je mets en scène des plans que j'ai réalisés disponibles, où les personnes qui n'ont pas forcément la notion de l'espace puisse comprendre que voilà, dans un studio de telle forme, 20 mètres carrés ou quelque chose de 60 mètres carrés, tiens, on peut faire ça, ça, ça. Et là, ils peuvent déjà avancer déjà sur cette base-là un peu eux-mêmes, et surtout pouvoir transmettre à leurs futures entreprises des principes de raisonnement sur plan, carré, bien cadré et beaucoup plus professionnel que parfois un simple croquis ou un discours maladroit.
Alors, avec la loi climat et résilience et puis la lutte contre les passoires thermiques, là, avec des indices de performance énergétique G et bientôt F, est-ce que selon vous, il y a des opportunités à saisir pour des personnes qui veulent investir et rénover un bien immobilier?
Oui, complètement. Parce que là où beaucoup auraient une crainte, certaines personnes un peu plus, je dirais, sensibilisées ou éduquées, verront l'opportunité.
Oui.
Là, on ne sait pas comment faire, d'autres seront à peu près, voire savoir réellement comment faire. Donc vraiment, oui, s'il y a une opportunité, faut juste savoir comment l'appréhender, ne pas foncer tête baissée. J'aime bien prendre l'exemple, on est au ski, quand on descend la colline et qu'il y a des arbres, on se dit pas, oui, on va aller tout en bas en faisant abstraction des arbres qu'on pourrait rencontrer. Un schéma de projet de rénovation, c'est savoir anticiper un arbre ici, un arbre là, un rocher par ici, quand même descendre, quand même aller en bas de cette piste, mais simplement savoir voir venir les problèmes qu'il pourrait avoir. En sachant les voir venir, on peut les encaisser, voire même les rediriger et savoir avoir une meilleure réponse pour pouvoir faire tout ça. Donc oui, clairement, il y a des choses à faire.
Alors maintenant, passons à la question du mois qui nous est posée par Sandra du Touquet. Quand on parle de rénovation, il y a un côté décoration, mais aussi un côté énergétique de plus en plus important, nous venons de le dire. Alors finalement, un bien ancien ne pourra jamais se hisser au niveau d'un bien neuf dans ce domaine. Et ne sommes-nous pas en train de tuer l'immobilier ancien?
Je ne crois pas, même pas du tout. Étant à Paris, les biens anciens, faut savoir que les biens anciens ont une histoire. Un bien neuf ne pourra pas détrôner cette histoire, étant récent. Un bébé qui vient de naître ne peut pas détrôner une personne qui a vécu, parce qu'elle n'a pas encore agi sur certaines choses. Par contre, un bien ancien, même si on a les contraintes énergétiques, il y a toujours des solutions de pouvoir magnifier ce bien par des solutions d'isolation et autres qu'on connaît un peu tous, mais aussi on pourrait rendre ces biens-là un peu plus intelligents avec des capteurs pour pouvoir mieux gérer certaines consommations. On va parler de domotique, de tous ces aspects-là, quand on part mieux gérer un peu les temps morts et donc la consommation et donc les coûts. Pour moi, un bien neuf ne pourra pas détrôner un bien dans l'ancien. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'histoire, il y a aussi la localisation.
Alors, Paris n'est pas forcément la France. Et effectivement, tous les biens anciens n'ont pas, sont pas des immeubles du boulevard Haussmann. Il y a aussi des biens dans le fond de certains coins de province qui, là, sont vraiment des passoires thermiques, là, c'est G ou F. Et quelque part, leur valeur intrinsèque a complètement fondu avec l'arrivée de cette loi. On n'y est pas exclu de voir un moins 25% par rapport à la valeur du bien. Oui. Donc c'est, je pense que la question de Sandra était plutôt en ce sens.
Mais en fait, même si on a un bien dans l'ancien, et que à cause de ces passoires énergétiques, la valeur peut descendre, on peut jouer aussi quand même sur son environnement et le fait qu'on peut quand même faire en sorte de le magnifier. Ça peut être aussi une belle opportunité de pouvoir décoder un peu le bien, décoder son environnement pour pouvoir le magnifier dans une ville ou dans une autre. Que ce bien-là, j'aime bien dire, devienne point de référence peut-être dans ce secteur, dans ce village, dans cette ville ou autre, même dans d'autres endroits. Je dirais faut voir peut-être la chose de façon différente. Et pour moi, il y aura toujours quand même une solution parce que aujourd'hui, il faut du logement et savoir décoder ces opportunités-là est assez intéressante au niveau de tout ce qu'on peut faire en termes de passoires énergétiques.
Eh bien, merci Michaël Judaïc. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes architecte intérieur et investisseur immobilier, conférencier et animateur de formation autour du branding immobilier. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui, ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités.
Merci Michaël.
Merci Alexandre, merci Gaëtan.
Investir malin, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Immo et sur toutes les plateformes de streaming.